Radio Campus 88.3. What's up, Sentinel?
Ça arrache, hein? 88.3.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
La meilleure manière de conserver l'eau, c'est dans les sols. La meilleure manière de la protéger des pollutions, du réchauffement, de l'évaporation, c'est dans les sols. Si l'État jouait l'honnêteté intellectuelle de prendre ses orientations en fonction de la connaissance scientifique, jamais au grand jamais, le moindre projet de méga-bassine ne verrait le jour. 25% de toute l'eau douce consommée en France, c'est pour le maïs. Il faut arrêter le maïs en fait en France. Avec les chaleurs caniculaires dépassant 35 degrés, il y a un seuil physiologique qui fait que tu pourras mettre toute l'eau que tu veux, le maïs, il ne se développera pas. Mais c'est qu'il y a tellement d'autres choses de bénéficiaires de cette culture du maïs que c'est très fort en face, quoi. Le cancer méga-bassine est en train de s'étendre à l'ensemble de la France, cristalliser l'importance de la lutte de Sainte-Soline. Tous ces projets, ils sont quand même à l'arrêt, en train de regarder ce qui va se passer, est-ce que ça va passer ou est-ce que ça va pas passer. Ça passera nulle part. Quand on voit la vitesse à laquelle les gens se mobilisent et sur leur territoire, dès que le mot de méga-bassine arrive, il va être grand temps pour eux d'envisager la sortie de piste la plus honorable possible. Ils sont dans une espèce de déni et d'orgueil dangereux, en fait. C'est en ça où la Macronie, elle est dangereuse. Ils sont d'une fierté qui les rend bêtes et dangereux. Donc, oui, quand on lutte, quand on résiste, ça fonctionne. Il n'y a que les combats qu'on ne porte pas, qu'on est sûr de perdre. Lutter, ça vaut toujours le coup. Parce que ce qu'on vit en luttant, les rencontres qu'on fait, ça nous rend juste vivants.
Vivre, c'est lutter. Lutter, c'est vivre. Et quand on se lance dans une bataille, on n'est jamais sûr de gagner. Mais ce qui est certain, c'est que si on ne se bat pas, on est sûr de perdre. Salut les amis, c'est JBD, c'est La Voix Off. Bienvenue à vous pour cette nouvelle rencontre avec Julien Leguet qu'on a déjà croisé dans une manif anti-bassine de mars 2022. Julien est notamment batelier du Marais Poitevin, est l'un des porte-parole du collectif Bassine Non Merci, BNM, qui est l'un des nombreux regroupements qui composent l'indissoluble nébuleuse des soulèvements de la Terre, notamment soulevée contre les mortifères méga-bassines, métastase parmi tant d'autres du cancer capitaliste qui est en train de tout faire crever. Mais rien n'est encore perdu. Nobasalan, avec Julien Leguet, c'est parti pour une heure de conversation à bâton rompu qu'on terminera par une baignade dans la Loire. Salut Julien.
Salut, salut à tous.
Plaisir de te retrouver ici à la Rabouilleuse, au Pélio, Roche-Corbon, sur les bords de Loire, pas très loin de la ville de Tours, en région centre. Ouais. Ça va ?
Bah ouais, en particulier depuis 2 heures qu'on s'est posé là et qu'on découvre ce paradis et qu'il est encore plus beau qu'on l'imaginait, avec des gens encore plus beaux qu'on les imaginait. On va vivre un week-end d'humanité dense, ouais, c'est chouette. Après les aventures du mois précédent, ouais, ça fait faire le plus grand bien.
Alors au moment où on se parle, on est le 1er juillet 2023, et quand je te dis ça va, pas trop claqué, pas trop fatigué, parce que...
En particulier sur le mois qui vient de passer, où tout s'est enchaîné à vitesse grand V, avec une intensité et une violence qu'on n'avait jamais éprouvées. Bah sinon merci, fait partie des soulèvements de la Terre. Et donc on a été aux premières loges de toute cette bataille autour de la dissolution. On est près de 30 à avoir été raflés dans le mois qui vient de passer. Il y a eu 3 opérations de police massives autour d'actions qui ont été menées avec les soulèvements. Des camarades qui sont retrouvés pendant 4 jours à la section de l'antiterrorisme à Levallois-Perret, avec tout ce que ça a généré derrière de rassemblement, de solidarité, de... Il y a quelque chose qui se passe en France, en tout cas dans la manière dont le gouvernement considère les mouvements de résistance écologiste. Ouais, on est une espèce de point d'orgue et à tel point qu'aujourd'hui il y a tout un tas d'institutions internationales qui regardent la France, notamment le rapporteur de l'ONU là, qui questionne vraiment sur les méthodes de maintien de l'ordre et de répression qui sont appliquées à notre égard. la continuité de la petite sémantique, de l'écoterrorisme, etc. quoi. Puis après, à titre perso, ça a été un peu galère ce mois-ci, puisque j'ai eu des problèmes de santé, bah, qui sont peut-être le résultat de toute cette énergie qu'on met dans cette bataille, mais j'ai fait 10 jours à l'hosto, avec 3 jours dans le coma, méningite, encéphalite. C'était assez chaud, je suis passé assez près. Ouais, une semaine après être sorti de l'hosto, j'ai développé cette paralysie faciale là, qui m'handicape depuis une semaine, qui est vraisemblablement temporaire, quoi, mais qui ne facilite pas le quotidien. Et puis pour parachever le mois d'une danse hyper dense, ce mercredi, on était 8 camarades en garde à vue un peu partout en France. Là, l'État est passé vraiment à un nouveau cap assez délirant, dans le sens où bon, que bassine non merci, les soulèvements soient convoqués. Il y a une petite musique écrite depuis un moment, quoi. Là, ce coup-là, ils sont venus chercher les responsables des syndicats. David Baudin de la CGT 79, Hervé Auguin de Sud Solidaire 79 également, et puis les représentants de la Confédération Paysanne, Nicolas Giraud, qui était porte-parole nationale, et puis Benoît Jaunet, porte-parole 79. Alors c'est rigolo parce que dans leurs interpellations, ça donne bien un petit peu le schéma de ceux d'en face. Pour eux, ils n'imaginent pas qu'un mouvement puisse ne pas être géré par des chefs et que ces chefs ne soient pas des garçons. Voilà, on a tous entre 38 et 46 ans, enfin, ils ne comprennent pas qui on est et comment on fonctionne. Donc ils reproduisent leur propre schéma de pensée sur ce qu'on n'est pas, c'est assez révélateur. Donc c'était une grosse opération coordonnée, parce que c'est le proc de Niort qui gérait des gardaves dans 6 gendarmeries différentes à travers la France, entre Dole, les alentours de Nantes et puis les Deux-Sèvres. Et ça a dû leur faire des nœuds dans la tête aussi, parce que alors, pour être sûr que les camarades de Notre-Dame ne se retrouvent pas à faire un rassemblement trop massif, les 3 camarades des soulèvements étaient dans 3 gendarmeries différentes autour de Nantes. Et comme il y a quand même eu mobilisation avec des tracteurs, des vélos qui ont débarqué devant, ils ont déporté les auditions en Deux-Sèvres. Donc les camarades ont été transférés, parmi eux, 2 qui la semaine d'avant avaient suivi ce transfert, perquisition 6h30 du matin avec les cagoulés et compagnie qui débarquent là-dedans, enfin le zbeul quoi, mise en joue et tout ce qu'on veut, et transportés dans la journée à Levallois-Perret. Ils s'étaient pris 96 heures de gardave et là ils en ont pris pour 12 heures quoi. Donc ouais, c'était un mois assez éprouvant, ouais, clairement.
Donc là, tu sors toi-même de gardave, là.
Ouais, c'est ça, depuis mercredi soir, là. C'est pas ma première gardave, hein, c'est ma troisième, et puis des auditions libres, j'en ai une palanquée. Et comme quand même, ça monte en puissance en face, et puis d'ailleurs, honte sur moi, un des événements les plus peut-être traumatisants ou inquiétants de ce qui vient de se passer ces derniers, sur le plan judiciaire, c'est qu'on a 2 camarades, et ça c'est une nouveauté, qui sont encristés, envivonnés, dans la prison de Vivonne, à côté de Poitiers. Un camarade gilet jaune de Bordeaux, Cédric, qui a pris 10 mois ferme. Malheureusement, on a appris la convocation le matin même, et on n'a pas pu faire jouer toute la solidarité et tout, quoi. On n'était pas à son procès, on n'a pas pu lui fournir l'accompagnement en termes de legal team et de stratégie de défense, et il a pris cher, quoi. Et puis un autre camarade qui s'appelle Loïc, qui est maraîcher à côté de Bure, et qui va être jugé le 27 juillet, et qui a été mis en détention préventive, et qui, lui, a été convoqué pour participation à une manifestation interdite, pour le fait d'avoir, a priori, recel d'un gilet de gendarmerie et un tag au sol, quoi. Et il est en détention.
Et quand tu es convoqué, qu'est-ce qu'on te reproche ?
Les chefs d'inculpation, ils sont vachement autour de justement l'organisation de manifestations non autorisées ou de participation à un groupement en vue de commettre des atteintes aux biens ou aux personnes. D'ailleurs, ce petit glissement sémantique, parce que ce délit-là, il est nouveau. C'est un délit qui date depuis 2015 et qui a un élément judiciaire qui permet de criminaliser les mouvements sociaux, les mouvements de résistance ou de contre-pouvoir. C'est 2 délits qui ne sont pas taxés de la même manière. Dans un cas, c'est 6 mois de prison, dans un autre cas, c'est 1 an. Du fait que ce soit 1 an, bah, ça peut débloquer des gardes à vue plus longues avec des moyens d'investigation plus importants. Je n'ai pas bien compris parce que j'avais déjà été convoqué pour toutes ces manifs. Là. Je suis convoqué pour parce qu'il va y avoir un procès historique le 8 septembre à Niort. Parce que parmi les 8 camarades, on est 7 à être convoqués pour un procès où voilà, concrètement, il va y avoir 4 responsables syndicaux convoqués pour faire leur boulot syndicaliste, quoi, pour accomplir leur mission de syndicaliste. Et ça, un 8 septembre, rentrée sociale, un vendredi après-midi, ça va être le zbeul à Niort, clair et net. C'est un procès politique qui s'annonce là, quoi. Il faut que j'aille avec mon avocat, mais je crois que j'ai 10 chefs d'inculpation. Ce qu'on partage tous, c'est ces 2 chefs d'inculpation-là. Ils ont fait une espèce de pot-pourri où sont venus rechercher tout un tas de délits sur les 4 dernières manifs autour de Sainte-Soline. Donc moi, je prends des chefs d'inculpation sur 3 manifs, sur 3 dates, les 2 grosses manifs de Sainte-Soline et puis celle qu'on avait fait le jour de l'ouverture du chantier, quand on avait constaté qu'ils avaient installé les grilles dans les 24 heures, on avait organisé un pique-nique, un barbecue, on avait démonté, on était rentré sur le site, on avait fait un peu de rugby avec les flics, et donc il y avait des chefs d'inculpation là-dessus, dont des chefs d'inculpation assez comiques, comme le vol d'une pelle cassée qui appartenait à la coopérative Océalia, qui est juste à côté de la bassine, ou un tag sur Océalia, donc on va bien se marrer. Et j'ai aussi pris un chef d'inculpation sur la manif du 1er mai, où on est allé poser un tag devant la gendarmerie de Niort en hommage à Serge, et puis aux 200 mutilés de Sainte-Soline, exigeant la mise en prison de la préfète Dubé, du chef du numéro 1 de la gendarmerie des Deux-Sèvres, Vestieux, et puis du chef en chef d'Armanin.
Alors le délire de moyens policiers, il était déjà là en mars 2022, la première fois qu'on s'est rencontrés à La Rochénard, à cette première manifestation. Et le Canard Enchaîné, d'ailleurs, l'avait pointé. Ils avaient, je crois, utilisé du matériel militaire pour espionner une réunion de préparation.
En effet, 2 semaines avant la manif du printemps maraîchin, au domicile de mon père, on avait révélé la présence de matériel militaire très sophistiqué pour 40 000 euros. Une caméra télescopique, du matos, on avait retrouvé les références et tout, hein, ça fournit qu'aux forces de l'ordre et aux armées. Quoi. Et avec un jeu de batterie au lithium, un système d'émetteur qui permet comme ça de renvoyer en direct toutes les images prises à plusieurs kilomètres de là. Quoi. Donc vraisemblablement que des locaux de Niort, de la préfecture, ils pouvaient en direct voir tous les allées et venues devant le domicile de mon père, qui était soupçonné d'être un lieu de réunion et de complotisme imminent. Et puis également dans le même délire, il y a plusieurs balises GPS qui ont été trouvées sous des véhicules de camarades. Ça a été le cas pour moi où j'avais mis mon camion il y a 6 mois de ça chez le garagiste. Et puis quand je vais chercher la facture, il me montre un petit boîtier, il me dit Voilà, c'était du matos installé vraisemblablement par la cellule d'émetteur. Parce qu'il y a tout ce jeu de planquer les préfets quand ils sont interpellés par les médias qui font on ne savait pas. Puis quand ils sont vraiment acculés, ils admettent que c'est du matos qui appartient éventuellement à la police, sauf qu'en réalité, c'est pas au service police que ça appartient, ça appartient à la cellule d'Emeter. S'ils n'admettent pas que c'est d'Emeter, c'est qu'à un moment, d'Emeter et tout son volet investigation de mouvement d'opinion aurait dû être dissous, pour le coup. Ce qu'il y a quelque chose qui aurait dû être dissous en France, c'est la cellule d'Emeter. Pour la petite histoire, c'est unique dans l'histoire de France, c'est le résultat d'une convention entre un gouvernement, le gouvernement Macron, et la FNSEA pour mettre en place un système de protection spéciale à destination des agriculteurs, mais en particulier des membres de la FNSEA. Donc c'est à la fois un fichier où vont être répertoriés tous les faits agricoles, et ça à la limite des agressions sur. Et notamment ça a été aussi créé par rapport aux intrusions L214, etc. Mais par extension, ils ont mis en place une cellule dédiée avec des moyens humains et des moyens techniques, ni plus ni moins que de l'espionnage politique à destination des mouvements tels que le nôtre. Voilà. Et ça, ça a été jugé illégal par le Conseil d'État. Il y a une décision du Conseil d'État intimant l'ordre au gouvernement de dissoudre et la cellule d'Emeter est toujours active.
Sainte-Soline, c'était quand même très particulier au niveau violence. Même des gens, entre guillemets, chevronnés, sur le côté barricade, affrontement, etc., même eux étaient impressionnés. Sainte-Soline, ça t'a surpris ?
Que ça monte crescendo de manif en manif, c'est ce qu'on vit depuis 6 ans. Le mouvement de résistance sur les bassines, pendant 4 ans, il a été un mouvement familial, pacifiste. Pendant 4 ans, on a utilisé tous les moyens possibles et imaginables qui s'offraient à nous dans le cadre de la légalité, les procès en tribunal administratif, qu'on gagne pratiquement tous, des réunions publiques, etc. Vraiment tout l'éventail du militant traditionnel auquel la seule réponse a toujours été le mépris et le passage en force. Là où on sera tout à fait en droit et où il y a tellement d'éléments scientifiques pour justifier aujourd'hui une suspension, un moratoire. Ce qu'on a révélé avec tout ce travail de contre-expertise citoyenne qui a été mené, notamment par exemple les études menées par le BRGM qui sont venues porter crédit au projet de la coopérative de l'eau qui était commanditaire de l'étude, ne mentionne pas, n'envisage pas les effets du réchauffement climatique. comment investir et comment faire prendre un tel virage sur un territoire sans prendre en compte cet élément majeur, sans pouvoir garantir que le remplissage des bassines, serait-il en hiver, n'impactera pas la deuxième zone humide qui est en contrebas, n'impactera pas le remplissage des nappes phréatiques qui, je le rappelle, l'objectif sur un plan hydrogéologique, c'est que les nappes phréatiques elles soient à ras-bord au printemps pour pouvoir relarguer toute l'eau, tout le reste de la saison sèche. C'est ça une bonne gestion de l'eau. Donc le principe hydraulique qui viserait à penser qu'on peut prélever en hiver sans impacter de ce qui se passera de l'été, c'est un non-sens total sur le plan hydraulique. Et ça, c'est clairement un consensus partagé par tous les hydrogéologues. La meilleure manière de conserver l'eau, c'est dans les sols. La meilleure manière de la protéger des pollutions, du réchauffement, de l'évaporation, c'est dans les sols. Donc ce projet, il est scientifiquement mort en réalité. Si l'État jouait la carte de l'honnêteté intellectuelle et de prendre ses orientations en fonction de la connaissance scientifique, jamais au grand jamais, aujourd'hui, le moindre projet de méga-bassine ne verrait le jour. Et donc, quand face à tout cet éventail, tout ce qu'on reçoit, c'est le démarrage des travaux. En fait, si on veut trouver dans l'histoire de ce mouvement la rupture, le moment où on change nos modalités d'action et en effet, on rentre dans un rapport à l'État et aux forces de l'ordre beaucoup plus frontal, c'est le démarrage des travaux en octobre 2021, quand la première bassine se fait sur la commune de Mauzé-sur-le-Mignon, quand ils posent la première grille. Dès ce mois de septembre, le mouvement se nationalise. On reçoit des soutiens de plus en plus massifs et avec des compétences énormes à travers la Confédération Paysanne qui était déjà très engagée au niveau Poitou-Charentes mais qui là s'engage au niveau national avec tout ce que ça implique en termes de ses salariés. C'est énorme sur un plan logistique mais aussi technique, etc. Et puis avec cette alliance incroyable qui est constituée par les soulèvements de la terre. À partir de ce moment-là, on a réussi à faire comprendre que cette problématique de méga-bassine, ce n'était pas une problématique locale. C'était un territoire test avant généralisation du dispositif à l'ensemble des territoires en France avec des structures de sol et des pratiques agricoles équivalentes. Ce que je veux dire par là, c'est que la méga-bassine, c'est l'outil type pour les plaines céréalières calcaires. Là où justement, il y a des nappes phréatiques en dessous. Ce n'est pas un outil que tu vas faire dans des zones de montagne, ce n'est pas un outil que tu vas faire dans des zones où tu as des sols étanches type schiste, etc., comme la Bretagne, etc. Où là, tu vas plutôt, si tu veux faire du stockage à vocation agricole, faire ce qu'on appelle de la retenue collinaire. Donc c'est des systèmes d'endiguement et de barrages, là où sur des sols plutôt plats, tu vas élever des digues, tu vas étanchéifier ces digues, et puis tu vas remplir ces cratères avec du pompage en nappe, du pompage en rivière. Voilà le distinguo un peu technique, retenue collinaire ou stockage par méga-bassine. Et donc c'est plus de la moitié de la France où il y a ce type de pratique. Puis d'ailleurs aujourd'hui, il y a des projets de méga-bassines qui nous arrivent du sud du Massif central, de la plaine de la Limagne, poussé par l'Imagrin, qui est un producteur de grains semences de maïs et qui veut qu'on ait un projet à l'horizon 2025 de deux bassines qui feraient chacune deux fois Sainte-Soline. On a des projets qui nous arrivent de Champagne, qui nous arrivent... On est vraiment à cette phase où le cancer méga-bassine est en train de s'étendre à l'ensemble de la France et où ça vient encore plus cristalliser l'importance de la lutte de Sainte-Soline en particulier. Parce qu'en fait, tous ces projets, ils sont quand même à l'arrêt, en train de regarder ce qui va se passer, est-ce que ça va passer ou est-ce que ça ne va pas passer. Et là, il ne faut pas qu'ils se leurrent, ça passera nulle part. Aujourd'hui, quand on voit la vitesse à laquelle les gens se mobilisent et sur leur territoire, dès que le mot de réserve de substitution de méga-bassines arrive, les collectifs BNM, il y en a 12. Il y a 180 collectifs soulèvement de la terre. Ça y est, c'est vu, et c'est identifié. Il va être grand temps pour eux d'envisager la sortie de piste la plus honorable possible. Mais là, ils se sont déjà largement compromis. Ils sont dans une espèce de déni et d'orgueil dangereux, en fait. C'est en ça où la Macronie, elle est dangereuse. Ils sont d'une fierté qui les rembête et dangereux, oui.
Dans tout l'éventail de militants et militantes possibles, il y a des familles, il y a des gens qui font des pique-niques, des manifs, etc. Il y a besoin de juristes aussi, parce qu'un monde de droite, un monde de droit. Ça passe aussi par des choses frontales, comme ce que peuvent faire ces jeunes gens habillés en noir, qui se sont confrontés aux forces policières. Et puis, je voudrais en profiter là pour qu'on salue tous les deux la docteure Anne-Morwenn Pastier, qui est hydrogéologue et qui a contribué à démonter un rapport du BRGM, une mauvaise réponse à une question mal posée, ce que n'a pas démenti d'ailleurs le BRGM, donc le Bureau de ressources géologiques et minières. Et les partisans des méga-bassines, en fait, invoquaient ce rapport du BRGM, donc une mauvaise question avec une mauvaise réponse. il n'y a plus de viabilité scientifique à ces mégabassines. Et la docteure Pastier a désarmé.
Voilà. Ouais, désarmé. Ouais.
Donc on peut en profiter pour lui faire un bisou.
Ah, mais... Clairement. Bisous, Anne-Mo. Qui, à cette heure, ça dit aussi la dynamique du mouvement là chez nous et la diversité. Même encore aujourd'hui, avec ce niveau de rapport de force incroyable, on continue à faire cette place fondamentale, à vivre la rivière, à ressentir nos éléments, à faire de l'éduc pop, à continuer à se former, etc. À l'heure qu'il est, il y a 150 camarades qui sont en train de descendre la rivière Klein depuis deux jours, qui ont commencé leur périple hier matin devant la prison de Vivonne pour aller saluer Loïc et Cédric, et qui voilà, là, sont en train de partager un moment un peu comme on est là, tous ensemble. C'est un truc qu'on avait fait l'an dernier sur la Sèvre Niortaise, où pendant une semaine, on avait descendu la Sèvre et on avait fait un bivouac. C'est des expériences extraordinaires. Ça fait beaucoup de force, de liens. Nos aventures, elles sont humainement très fortes. Et la place de la camaraderie, la place de la joie là-dedans, la place de la culture, mais non, de vivre son milieu, vivre... Anne Morwen, c'est ça, c'est une très vieille copine. Elle était dans les squats Rochelet et compagnie. Et on s'est retrouvés il y a un an, quand elle est venue se réinstaller sur le coin.
Alors, moi, j'aime bien dire la docteure Pastier, parce qu'il y a aussi 8 ans d'études derrière, des expériences professionnelles. Non, mais moi, je l'ai rencontrée en vrai, donc en fait, je sais ce que tu dis. C'est juste histoire de dire, vous savez quoi, la zozote qui parle, là, elle sait de quoi elle parle, en fait.
Clairement, et... Je trouve que l'arrivée d'Anne-Mo, de la docteure Pastier, dans la lutte sur les bassines, en effet, ça dit beaucoup de ce que devrait être la place de la science dans le débat politique, dans l'éclairage des décideurs, dans l'information des citoyens.
C'est clair, c'est ça, que... juste le truc, on n'est pas juste des gens qui aimons les dauphins et les colibris, en fait, on sait ce qu'on dit, quoi.
Mais clairement, c'est la place de l'expertise citoyenne. C'est une vraie question de fond, quoi. Dans quelle mesure une mégabassine, c'est du néocolonialisme? Dans quelle mesure c'est la projection de vision de développement? Et c'est ça qui est assez fou, parce que c'est des démarches qui sont soutenues par l'État. Et c'est vrai que moi, je suis fils d'institut et tout, j'ai encore cette naïveté de croire que l'État, c'est l'intérêt général.
Ça dépend qui en a le contrôle.
Et oui.
Un débat là-dessus, là, tu sais, enfin voilà, avec la répression policière qui s'abat. J'ai de plus en plus de mal à essayer de convaincre les gens que, en fait, être anti-flic, je trouve ça débile. Évidemment, je suis blanc, middle class, mais je m'appelle pas Mustapha, j'habite pas dans une cité en feu. Donc c'est facile pour moi de dire ça, mais je trouve que c'est un mauvais combat que de se confronter à l'outil. C'est surtout le ministre, je pense, qui pose problème. Je pense que c'est aussi erroné comme raisonnement de dire qu'un marteau est méchant. Un marteau, soit t'enfonces des clous avec, soit tu tapes sur la gueule de quelqu'un, ou tu peux même faire les deux. Mais c'est de plus en plus compliqué avec l'assassinat du petit Naël, là, de tenir sur cette ligne-là. Il y a un moment où la colère, dont on sait qu'elle n'est pas toujours très bonne conseillère, semble malgré tout parfois légitime.
Peut-être on peut faire un petit clin d'œil aux camarades de la Rabouilleuse, qui parlent du grand retournement. Et c'est vrai que moi, dans mon rapport avec les flics, notamment, c'est con, hein, à la fois j'ai... un ressenti de plus en plus profond. Et puis, j'arrive pas à ne pas voir qu'il y a quand même un humain, une humaine derrière, quoi.
C'est des prolos qu'on envoie taper sur d'autres prolos. Là, pour même s'ils ont des primes.
Oui, c'est ça le truc, quoi. Comment on nomme nos oppresseurs et comment les oppressés ne deviennent pas les serviteurs des oppresseurs. Aujourd'hui, ce sont des oppressés au service des oppresseurs. Ils se trompent de cible et ils en font leur beurre. Donc, ça en fait quand même des personnages assez particuliers. Quand on accepte un ordre illégal d'envoyer tir tendu du LBD sur des enfants, quand on franchit ce genre de Rubicon, bah en fait, on n'est peut-être plus un homme.
Ou une femme, hein, parce qu'il y a aussi des femmes casquées hein, et derrière bouclier.
Oui.
Faisons dans l'inclusif aussi à cet égard.
Donc un humain, une humaine, ouais. Oui. Donc la compassion et puis ce... Ouais. Et néanmoins, je ne perds pas de l'esprit que les moments où l'histoire a basculé, où le pouvoir a vacillé, c'est quand justement les armes se sont retournées. Je pense qu'il y a certainement de l'investigation à faire là-dessus. Il y a chez les agents qui ont vécu Sainte-Soline, des agents aujourd'hui qui sont au bord du suicide, ou qui ont démissionné. D'ailleurs, il y a un taux de démission qui a augmenté significativement depuis Sainte-Soline. On a des retours en off comme de gens qui ne sont pas rentrés dans la carrière pour ça, en fait. Qui, quand tu leur donnes l'ordre de tirer sur une foule pacifique, s'ils le font, c'est parce qu'ils craignent vraisemblablement la rétorsion autour de la caserne, parce que tout l'impact du casernage là-dedans, quoi. Là, j'ai un témoignage d'un gars, il est au bord du suicide, et son poste durant la manif, ça a été de bloquer l'arrivée des secours. Tout son village sait qu'il a tenu ce rôle-là. Le seul salut de ce gars-là, c'est un jour de parler et de redevenir homme, Menschen, de pouvoir se redire qu'il a commis une erreur, il a été l'engrenage d'un truc infernal, indicible, inadmissible, et que la seule manière de pouvoir se regarder à nouveau, ben, c'est le faire savoir. Parce que la petite musique de Darmanin et tous ces dénis, etc., enfin, c'est ça qui a été aussi très violent dans la presse Anne-Soline, ce déni, de dire « mais non, on n'a pas tiré avec des LBD sur des quads, il faut qu'il y ait la une de Libé où on voit le tir, pour que Darmanin fasse « oh, on va faire une enquête de l'IGGN, résultat de l'enquête IGGN, légitime défense ». Les gars n'auraient jamais dû porter un LBD, ils s'en sont servis, et c'est de la légitime défense. Et ensuite, on voit dans complément d'enquête sur la 2, ce truc clownesque quasiment, où on a l'autre abruti de Gradé qui est sur la digue, qui envoie les 40 connards sur leur quad, ces 40 connards qui tirent sur le cortège le plus pacifique, et lui qui fait « Oh les cons, ils se sont trompés de cortège !» Et ensuite, on essaye d'orchestrer le fait que ce genre de choses puisse générer de la rancœur et un esprit de vengeance. Ça fait deux fois de suite qu'ils tirent, qu'ils inondent d'objets létaux des cortèges pacifiques. Au Sainte-Soline 1, c'est le cortège blanc, où on avance tous avec les élus, les enfants, etc., comme Gandhi, et on s'en prend plein la gueule. Alors évidemment que les copains qui viennent avec une autre histoire, une autre relation aux flics, ça les fout hors d'eux, et que, bah, en réalité, ils viennent nous défendre. Parce que c'est ça que font les Black Blocs dans les cortèges. C'est pour ça que moi je dis qu'aujourd'hui les Black Blocs, c'est les derniers garants de la démocratie. Ils rendent possible des manifestations qui sont systématiquement interdites. Et très clairement, c'est ce qui s'est passé sur notre territoire. Il n'y a plus aucune ambiguïté. La petite musique de Darmanin, des cagoulés qui seraient d'affreux éco-terroristes, ça ne marche pas. Les gens qui ont vécu les manifs de Sainte-Soline savent très bien ce que font et pourquoi le font les camarades cagoulés lors de nos manifestations.
C'est un débat qu'on a ici avec des proches voilà, qui trouvent que quand même la violence c'est violent, et j'ai beau expliquer que la première violence elle est commise par l'État qui est au service de ce syndicat de l'agro-industrie majoritaire qu'est la FNSEA. Le gouvernement Macron est un larbin du capitalisme et petit doigt sur la couture, et qu'ils obéissent aux ordres de ce syndicat. Et l'autre fois, dans un excès de colère, je disais à mon beau-père, qui était quand même un peu outré, parce que c'est vrai que la violence, c'est violent, mais qui commet la première violence ? J'ai choisi d'autres moyens d'expression. Là, j'ai ce micro, tu parles dedans. Mais franchement, si je ne faisais pas ça, je m'interroge pour savoir si j'aurais le courage ou pas de me mêler à ces jeunes hommes et ces jeunes femmes habillées en noir qui, pour aller déchirer une bâche de mégabassine, ont trouvé des forces policières sur leur chemin. Je pense que ces gens, effectivement, alors j'aime bien les narguer aussi, défendent la chose publique qui en latin se dit res publica. Ça énerve toujours un zadiste. Donc voilà, j'aime bien aussi provoquer nos camarades des fois. Ça vous plaît pas, mais vous défendez la res publica, la chose publique, cette eau qui appartient à tout le monde.
L'intérêt général, et oui, oui, bien sûr.
Essaye cette blague sur un zadiste un jour, tu verras.
On ne les ménage pas.
Non, mais ce que je disais, c'est le débat que j'ai ici avec Clément de La Rabouilleuse, mais avec d'autres, je dis que finalement, un gouvernement, soit il discute avec des gens de La Rabouilleuse, élevés par Pierre Rabhi en plus, tu te rends compte, ou soit c'est les Black Blocs en fait, qu'est-ce que vous choisissez ?
En effet, et puis le choc des images, et ça tourne en boucle, etc., c'est clair qu'un camion de flics en feu, ça génère un truc dans l'imaginaire assez ouf, quoi, avec le prisme déformant. La violence, elle n'est pas du même acabit de chaque bord. Et les moyens de la mise en violence ne sont pas du tout les mêmes. Qui vient avec quoi sur le théâtre des opérations ? Et qui programme la violence ? Qui avait écrit ce scénario-là ? Nous, l'objectif, quand on se réunit, c'est de rentrer dans une bassine. c'est de rentrer dans un cratère. C'est de franchir des barrières qui ne protègent qu'un trou. Et c'est vrai que pour ça, et on est dans la symbolique, on est prêt à mettre nos vies en jeu. Alors on peut se poser la question, hein, est-ce que c'est bien pertinent il y a eu tout un, une très légitime critique de la presse Sainte-Soline, de comment on en est arrivé là, et comment on a... Est-ce que l'enjeu en valait la chandelle? Est-ce que... jamais, parce que je me posais la question initiale de... Est-ce qu'on avait envisagé cette violence? On savait qu'on serait face à une adversité énorme, mais moi, jamais, au grand jamais, j'aurais imaginé que des ordres auraient été donnés pour tuer. Et c'est bien ça qu'il faut dire. Au pilotage à Beauvau, et dans les risques pris, quand tu mets 3000 hommes et que tu leur donnes l'autorisation de tirer 5000 grenades sur une foule qui n'est pas protégée, parce que d'un côté, il y a à la fois les moyens pour esquinter l'adversaire, et puis il y a les moyens de protection. Ils sont très peu de blessés à proportion. Et là aussi, c'est remettons les violences en regard. D'un côté, il y a 200 mutilés. Ah, mais je ne suis pas allé au front. J'étais pas à Sainte-Soline, parce que j'étais sous le coup d'un contrôle judiciaire. Et tous les copains, la famille, m'avaient dit, on ne veut pas te voir en prison, on a besoin de toi. Je me suis arrêté à la limite, j'ai fait la moitié de la manif. Et j'ai vu tous les copains partir au charbon, les copines. Et quand le dernier cortège n'était pas encore passé, les premiers étaient déjà devant Sainte-Soline, tellement il y avait de monde. Devant moi, il y avait 30 000 personnes, il y avait une marée humaine, tous les chemins étaient noirs de monde, c'était magnifique. Et les derniers n'étaient pas encore passés, que ça commençait déjà à canarder là-bas. Qu'il y avait déjà le copain qui était sur CNews, et puis on voyait le premier camarade tomber, quoi, et porté par les médics, et on voyait déjà que c'était très sérieux. Et deux minutes après, il passait en ambulance devant l'endroit où j'étais. Donc quand j'ai vu ce qui... Ben, je suis parti, je suis retourné en base arrière pour faire du brancardage. La boucherie. La boucherie, comment un État démocratique, il peut assumer un tel bilan? Comment il a pu utiliser, prendre le risque? Enfin, il y a trois personnes qui ont failli crever, quoi. Et puis les autres, il faut voir les plaies, quoi. Des joues, mais fendues en deux, des crânes défoncés, des éclats dans les chairs en profondeur. Puis c'est des formes de blessures dégueulasses, très difficiles à soigner. C'est des trucs, tu les traînes très longtemps. Putain, c'est comme Plogoff, c'est comme l'intifada. Il y a des armées d'un côté, il y a des citoyens, il y a un peuple qui se défend avec ce qu'il a sous les mains. Si, comme le dit Darmanin, l'objectif des Black Blocs était de tuer des flics, il y aura des flics morts. On viendrait avec de l'armement pour les buter. C'est pas ça le jeu. Le jeu, c'est de pouvoir juste exprimer et pouvoir manifester, dire notre désaccord. On vient pas pour tuer, on vient pour se défendre. Par contre, en face, on a un État autoritaire qui, lui, est prêt à tuer. Et dont on sait qu'ils étaient prêts à couvrir des morts. Quand un Darmanin qui, trois jours avant la manif, annonce dans tous les médias qu'il faut s'attendre à des images dures, ça veut dire quoi? Quand un Macron qui, devant l'Europe, fait le même genre de déclaration, ça veut dire quoi? Quand un Fesneau qui dit qu'on est là pour tuer les gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils écrivent quelle histoire? Ils sont prêts à écrire quelle histoire?
Il y a aussi le mauvais traitement que l'État applique à ses forces policières, comme tu le mentionnais tout à l'heure, hein, des blessures psychiques chez les flics.
Mais ça, j'en ai rien à foutre, en fait.
Ouais, mais ça en fait partie.
Ça fait partie.
C'est des dommages.
Ouais.
Ce que je veux dire par là, c'est que le pouvoir aussi traite ses flics comme des chiens. Je ne suis pas en train de les plaindre, mais simplement de le constater.
Alors, j'en ai pas tout à fait rien à foutre. Il y a en effet un certain nombre de flics qui ne sont pas encore tout à fait tous encartés au RN, et qui sont rentrés il y a peut-être 20, 30 ans avec une certaine idée du service public, etc. Ou à l'époque où les doctrines du maintien de l'ordre n'étaient pas celles-ci. La doctrine n'était pas la mise à distance par l'utilisation systématique de matériel d'explosion. Et c'était plutôt dans la discussion et en cas ultime avec les matraques, quoi, hein, c'était la proximité et de la tenue de position, et qui certainement peuvent vivre très mal les évolutions, ce qui peut-être peut justifier, on parlait tout à l'heure, hein, une augmentation des démissions. Mais ouais, franchement, là, après ce qu'on vient d'évoquer, j'ai du mal à avoir.
Toujours sur le registre du thème de la violence, de l'ennemi, etc., j'entends aussi beaucoup dire que il y a des exploitants agricoles qui sont le doigt dans l'engrenage de la logique FNSEA, agrocapitaliste, les agriculteurs agro-industriels, que ce serait une erreur de les voir comme l'ennemi, qu'il y a aussi chez ces gens-là des gens qui sont pris dans des logiques, qui sont pris à la gorge, dans des endettements, puis du regard social aussi. Et j'entends beaucoup dire, attention, ce serait une erreur de dire que tous ces exploitants agricoles sont des imbéciles, décérébrés, méchants qui veulent notre perte. Excuse-moi, ma question est très mal posée, mais...
En effet, la question n'est pas si bien posée que ça. Il y a en effet en face un système dont il est très difficile de s'affranchir, ce qui justifie que dans la profession agricole, si en off, il y a énormément de gens qui sont céréaliers, etc., qui vont pouvoir nous raconter autour d'un coup à boire au marché que... Ils trouvent que les bassines, c'est vraiment débile. Ils ne vont jamais l'exprimer dans le cadre syndical, dans le cadre d'une chambre d'agriculture, etc. Parce que y a un système avec des mesures de rétorsion qui sont immédiates et où chaque tête qui dépasse, chaque agriculteur qui s'exprime dans la presse sur un avis divergent de celui de la chambre d'agriculture ou de la FNSEA va subir dans les semaines ou mois qui viennent des rétorsions qui peuvent être un contrôle PAC. Contrôle de la politique agricole commune, de venir vérifier si la ferme est bien aux normes. C'est ce qui est arrivé à Philippe Béguin, le camarade propriétaire qui nous avait prêté le terrain pour le premier Sainte-Soline, qui quelques semaines après a eu à subir ça. Ça peut être de ne pas avoir accès à des terres lors des passages au SAFER, qui sont ces organismes qui sont censés redistribuer les terres en fonction des demandes quand il y a une ferme qui se vend. Ben ça peut être un lieu. De la rétorsion, c'est un des lieux. De la pression mafieuse qu'opère la FNSEA. Ça peut être également dans le renouvellement des volumes d'eau pour l'irrigation qui ont lieu chaque année, où il y a des commissions liées directement, dépendant directement des chambres d'agriculture. On appelle ça les OUGC, organismes uniques de gestion collective, où c'est la banque de l'eau. Si tu as levé la main, que tu es un petit maraîcher, puis que tu demandes de la flotte, et que tu as ouvert ta gueule sur les bassines, ben peut-être certainement qu'il y a peu de chances qu'on t'attribue un volume d'eau, même s'il est de 2000 m3, quand tu as 250 000 m3 qui vont être donnés chaque année aux plus gros céréaliers du territoire. Moi, je suis OK avec ça. Même, tu vois, aujourd'hui, dans cette période qui est très tendue sur notre territoire, on a continué, notamment autour de réunions publiques de présentation du travail d'Anne Morwen Pastier, le mois précédent, le dernier Sainte-Soline. On a fait deux réunions publiques au cœur du game, à côté de Mosée, sur des réunions hyper chaudes, on se retrouve à 200, les salles sont pleines, et il y en a 40, c'est les gros bras de la FNSEA. Ils sont là, et ils nous montrent bien, ils sont dans ce rapport de force-là, auquel on est prêt à faire face aussi aujourd'hui. Hein. C'est peut-être ce qui fait que ça marche plus aussi bien que ça marchait autrefois, c'est ce qu'ils ont fait pendant des années, et tout le monde tassait sa goule. Là, s'ils veulent jouer à la bagarre, on fera la bagarre. Mais nous, on n'est pas là pour faire la bagarre, on est là pour changer le territoire, on est là pour changer l'eau, on est là pour les aider à changer leur mode agricole. Et c'est vrai qu'à partir de là, moi je vais quand même faire la part des choses entre celui qui subit, qui se tasse sa goule et qui va subir le système, et ceux qui vont en être les acteurs. Un petit peu comme nos gardes mobiles. Ceux qui font le strict minimum, ceux qui vont être capables de refuser un ordre illégal, et ceux qui vont être proactifs et qui vont pousser, qui vont être les pousses au crime des copains. Je ne les considère pas de la même manière, les uns et les autres. Après, c'est évident que ces questions d'eau et de modification de l'agriculture ne peuvent se faire qu'avec les agriculteurs. C'est évident. Et que, en effet, je connais la réalité sociale et humaine de beaucoup d'entre eux, notamment chez les éleveurs. Chez nous, il y a beaucoup d'éleveurs qui font de la vache à lait, qui sont sur des systèmes dégueulasses, pour eux, pour leurs bêtes, pour les sols. C'est la course au litre, dans des conditions immondes, hein, avec des bestioles qui ne voient plus un brin d'herbe et qui sont alimentées à l'ensilage de maïs, qui vont être par 50 sous le soleil et qui doivent pisser jusqu'à du maïs. Et si elles développent des mammites, c'est à grand coup. Enfin voilà, c'est ce système-là. Et eux, c'est vraiment c'est les prolos de l'agriculture actuelle. C'est eux qui ont été esclavagisés par leurs coopératives, qui sont pourtant, qui émanent d'eux, qui étaient à la base des coopératives, au service d'un collectif, et qui aujourd'hui leur mettent la corde au cou. Ce qui, je trouve, symbolise bien tout ça, à la fin de ces réunions, qui somme toute sont bien passées, où il n'y a pas eu d'agression, finalement on a réussi à tel point qu'à la fin il reste boire le coup. On a loupé la photo, hein, où ils sont 20 avec les verres, nos bassaranes, en train de boire les bières qu'on leur a offertes. Tu vois, donc quand même. Et c'est ça aussi qui me met en colère, ça veut dire que le dialogue il n'est pas impossible. Ce qui rend le dialogue impossible aujourd'hui, c'est l'État. Par le parti pris, par cette volonté qu'elle a à imposer ce type d'aménagement sur notre territoire, elle a rendu toute discussion et toute émergence d'un projet partagé et co-construit impossible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la sortie de piste, elle n'est pas évidente à retrouver, parce que qui aujourd'hui va prendre son bâton de pèlerin pour assumer la médiation, pour nous remettre... peut-être qu'à la limite, il n'y a même pas besoin, puisqu'on est capable de le faire par nous-mêmes. Puisqu'ils sont venus, ils ont discuté, et qu'à la fin, un des jeunes exploitants qui est sur un système chèvre et qui est un des premiers connectés à la première bassine de Mosée, un des frères Baudouin, il dit « Le jour où vous attaquez l'Actalis, on sera avec vous. » J'ai envie de retourner le truc. Le jour où vous attaquez l'Actalis, on sera avec vous. Mais là, il y a quelque chose. C'est la même question de l'oppresseur et de l'oppressé. Ces gens-là, ils se plantent aussi. Et moi, je suis d'accord. C'est pas eux, nos ennemis. C'est nos adversaires du terrain. L'ennemi, c'est l'État. Et eux sont nos adversaires, et ce sont les bénéficiaires, et ce sont les pions d'un schéma qui les dépasse.
L'État qui est l'instrument de la FNSEA.
Non, parce que, en fait, moi je crois que dans cette histoire, la FNSEA, les exploitants, c'est les couillons du truc, mais les grands bénéficiaires de tout ça, c'est pas ce système-là. Ceux qui bénéficient de ces dividendes quand tu massacres des territoires comme ça, c'est vraiment l'agro-industrie au sens premier, les vendeurs de semences, les vendeurs de produits, les vendeurs de bâches, les vendeurs de... voilà. Et les vrais copains de Macron, ils sont là. Macron, il s'en fout hein, des agris du coin, il vote même pas pour lui. Non, non, son monde, et le monde auquel profitent les bassines, c'est ce supra-là, c'est les multinationales. Pour la vache, c'est Bridgestone. La vache de Sainte-Soline, elle va traverser l'Atlantique. C'est ce niveau-là, les copains. Et j'en étais à cette notion d'oppresseur-oppressé. En réalité, ces gens-là, dans leur quotidien, s'ils y réfléchissent bien, est-ce que c'est vraiment les éco-terroristes qui les empêche et qui les étrangle au quotidien? Moi, dans quelle mesure je suis responsable de leur souffrance et de leur relation à leurs banquiers, de leur relation à leurs fournisseurs, etc. Il faut que ces gens-là prennent conscience, mais je trouve que cette phrase vis-à-vis de l'Actalis, ben, c'est la première amorce de qui les a contraints. Et je pense que, en effet, la sortie de cette agriculture-là, elle commence par un mea culpa. Et ce mea culpa, c'est d'abord le mea culpa de l'État, qui depuis le plan Marshall, depuis la Seconde Guerre mondiale, a tout mis en œuvre pour intensifier l'agriculture et a emmené, a contraint ces fermes à ces choix-là. Et les seules qui ont réussi à survivre, c'est celles qui ont accepté le diktat de l'État, le schéma, prendre son crédit au Crédit Agricole et puis investir dans ses, aller sur tel... Et si on parle en particulier de l'eau, une étape cruciale qui est l'année 92, où le maïs devient la plante subventionnée par excellence et où dans tout l'ouest de la France et dans l'est de la France, il y a de manière générale une disparition des prairies au profit du maïs, où on passe d'un système où les vaches mangent de l'herbe vers un système de vaches qui produisent du lait en stabule et où finalement on va multiplier de l'ordre de 30, en tout cas sur notre territoire, c'est de cet ordre de grandeur-là. On va passer de 1000 hectares de terres irriguées à la fin des années 80 en Poitou-Charentes pour 30 000 hectares de terres irriguées en Deux-Sèvres, 30 000 hectares au début des années 2000. Et qui fait que le résultat aujourd'hui, c'est que 25% de toute l'eau consommée en France, de toute l'eau douce consommée en France, c'est pour le maïs. C'est le point sur lequel il faut agir urgemment. Il faut arrêter le maïs en fait en France. D'autant plus que avec les chaleurs caniculaires dépassant 35 degrés, il y a un seuil physiologique qui fait que tu pourras mettre toute l'eau que tu veux, le maïs, il ne se développera pas. Ils ont fait moins 40 sur des maïs intensément irrigués l'an dernier sur notre territoire. Ça devrait siffler la fin du game. Et même, c'est le capitalisme qui, naturellement, devrait se réguler. Mais c'est qu'il y a tellement d'autres choses de bénéficiaires de cette culture du maïs que c'est très fort en face, quoi. On est sur la fin.
Oui, on a bientôt fini et on va bientôt aller se tremper les pieds dans la Loire, si tu veux. Est-ce que cette contestation, cette lutte là, qui s'est particulièrement amorcée à partir de mars 2022, enfin moi de ce que j'ai pu en voir et qui s'est amplifiée jusqu'à Sainte-Soline, etc., est-ce que malgré tout ça met un frein à cette invasion des méga-bassines sur tout le territoire? Est-ce qu'ils ont levé le pied sur la pédale d'accélérateur ou est-ce qu'ils continuent comme si de rien n'était? On va descendre,
ouais,
les petites marges. Donc voilà, on a de la chance, c'est une belle journée aujourd'hui. Un petit peu de zef, mais un petit peu de soleil aussi. Et on descend le petit escalier en bois pour aller jusqu'à cette mini-plage de Loire.
Je vais pouvoir parer mon plus beau maillot de bain que j'ai trouvé.
Oh, il est magnifique.
Dernière réunion Bordeaux à l'espace Friperie.
C'est du sur-mesure et il va voir la Loire aujourd'hui et puis il va voir la Seine le 28 août.
Il est magnifique, donc bleu turquoise, on dirait qu'il est fait en crochet.
Voilà,
bleu turquoise. C'est synthétique, non?
J'imagine, hein. C'est ma grand-mère qui l'a fait, ouais. Un petit effet dentelle des plus extraordinaires. Dans quelle mesure le mouvement qu'on a initié, il freine les velléités aménageuses de l'État? Oui, 100% oui. Et là, pour le coup, il faut bien remonter à 2017, qui est le début du combat sur les bassines. Parce que le projet initial, sur les Deux-Sèvres, c'était bien de faire 19 bassines et que le projet soit, que les 19 bassines soient construites en 2020.
J'admire ta maîtrise du sujet parce que tu m'expliques tout ça très sérieusement tout en te dessapant. Là, t'as retiré les chaussettes et tu t'apprêtes à enfiler ton calbut de bain.
Pas de soucis, avec la gueule tordue.
Wow. Et jongler avec des balles en même temps, ce serait absolument parfait.
Je sais faire. Et aujourd'hui, on est en 2023, il y a une bassine et demie qui est faite. Donc oui, quand on lutte, quand on résiste, ça fonctionne. Il y a un truc qui est bien clair, c'est qu'il y a les luttes, il n'y a que les combats qu'on ne porte pas, qu'on est sûr de perdre. Lutter, ça vaut le coup. Et de toute façon, ça vaut toujours le coup. Parce que ce qu'on vit en luttant, les rencontres qu'on fait, en fait, ça nous rend juste vivants. Et donc, il n'y a aucun doute. S'il y a des gens qui se font chier, il y a un truc, rentrer dans la lutte, votre vie, elle va reprendre un nouveau sens, hein, ça c'est clair.
Et donc là, ils ont arrêté, ils ont vu quand même que ça bronchait et que une partie de la population n'était pas contente.
Sérieux, quoi. Et puis, faut voir le calvaire que ça a été pour eux de construire la bassine de Mosée. Puis en plus, elle est construite, mais elle est hyper fragile. Elle ne tient que parce qu'ils en ont fait l'un des plus hauts lieux, des plus sécurisés de France. Il y a 3 barrières, il y a 3 rideaux de fer. Sur un des rideaux de fer, il y a le même barbelé qu'en Israël, avec les espèces de lames de rasoir. À chaque coin, il y a des caméras vidéo, il y a des alarmes tous les 3 poteaux. Et il y a des rondes incessantes de la gendarmerie avec des contrôles. Enfin, ça vaut la surveillance. Elle vaut une... Et là encore, si ce n'était pas des projets largement soutenus par l'État, jamais économiquement, il ne serait... le darwinisme social, le darwinisme économique s'appliquait aux bassines, jamais au grand jamais, elle n'aurait vu le jour.
Ça valait le coup. J'ai du retard en dessapage sur toi. Je vais retirer mes pompes. Et juste pour clore, on va évoquer le sujet de l'usage parisien de ton maillot de bain. Mais attends, je retire mes pompes. Moi, je sais pas faire. Moi, je sais pas. Je suis pas comme toi. Je sais pas parler en tirant mes fringues.
Je savais pas que je savais le faire. Hein. C'est pas un exercice. pas non plus une spécialité.
Non, mais tu te découvres plein de... Comme quand on fait des bilans de compétences, tu sais, on se découvre des compétences qu'on savait pas qu'on les avait. Allez, on va tâter l'eau.
On y va, allez. Super. Elle est bien directe, en fait. C'est vrai que par rapport à mon milieu d'origine, il y a un truc, hein, y a du courant.
Toi, t'es un homme du marais, Poitevin.
Ouais, je suis un homme du marais, Poitevin, et l'eau, elle court pas du tout, et elle court tellement plus qu'on s'y baigne plus. La qualité de l'eau, elle est très très dégradée, et moi, je sais que c'est dans les trucs qui me donnent beaucoup d'attachement à ce territoire, ou ce qui, c'est l'endroit où j'ai appris à me baigner, où j'ai appris à naviguer. À tel point que c'est l'endroit, moi, je suis originaire de région parisienne, et à tel point que c'est l'endroit où, quand j'ai voulu avoir des enfants, les élever dans un environnement sain, ben, c'était évidemment le Marais, c'était pas les plaines de Picardie. Et puis que ben, sur ce laps de temps où mes enfants ont grandi, j'ai vu ce milieu se dégrader à vitesse grand V, voir des espèces aussi communes que tout le cortège d'amphibiens, de grenouilles ou de libellules complètement disparaître, les algues, disparaître la lentille d'eau. Et je suis dans une relation aujourd'hui, je dirais, assez douloureuse à ce territoire que j'aime tant. Et que je prends un grand, grand plaisir à retrouver des rivières saines, des rivières où tu puisses mettre le cul dans l'eau sereinement sans te demander si tu vas pas développer une bactérie à la con en rentrant. Moi, je sais qu'un des trucs qui m'avait bien alarmé, à partir duquel j'avais été assez chiant avec mes filles sur les conditions pour dire c'est ok, vous pouvez vous baigner ou pas. C'était une baignade comme ça au mois de juin où on va se baigner, il fait très chaud, on va se baigner sur le Mignon qui est la rivière qui passe devant le camping dont on s'occupait. Tiens, je fais un peu de pub pour le camping de yurte autogéré de la Freinet à la Grèce sur Mignon, que le collectif de travail qu'on a créé avec les copains il y a 15 ans, c'est la Rabouilleuse sur Sèvres-Niortaise, quoi. Où je dis que la Rabouilleuse, c'est la Freinet sur Loire. C'est pas des bateaux de Loire, c'est des barques à fond plat. Et puis l'hébergement, c'est dans des yurtes qu'on fabrique avec le frêne du marais, donc le terme de Freinet. Et où on va se baigner, et puis il y a une pluie d'orage avant, et puis il y a une grosse période de traitement. J'aime baigner, puis à la surface de l'eau, il y a une espèce de couche un petit peu graisseuse, qui sent un peu l'ammoniaque ou des trucs pas trop cool, quoi. Et puis pendant 3 jours, après j'ai eu des troubles visuels pendant 3 jours, j'avais des pertes d'équilibre, en fait on baignait en surface de trucs type néonicotinoïdes, perturbateurs neuro, tout ce que tu veux. Parce que ben, la plupart de ces molécules, elles sont dissoutes dans des phases plutôt huileuses et donc elles restent en surface. Et donc il y a ce film-là où tu peux avoir des densités de pesticides vraiment élevées, quoi. Et ça fait mal, ça fait mal. Quand c'est une liberté aussi fondamentale, je crois que pour moi la baignade c'est vraiment un truc, c'est un espèce humain, on sait marcher, courir et puis on sait nager, quoi. C'est partie des grands bonheurs, des grands...
Petite plage.
Je me suis mis un défi pendant ces deux jours. parce que je faisais la question de savoir à Clément s'il trouvait des indices de présence de la loutre sur ce secteur-là. Okay. Et la loutre, elle est présente hein, sur tous les affluents de la Loire. Et par contre, pour les trouver, faut être un petit peu pisteur ou savoir un peu comment se comporte la loutre. Et donc, je me suis mis le défi, là, dans les 48 heures, on va être là, essayer de trouver une de ces traces de passage. La principale qu'il faut rechercher, ce qu'on appelle l'épreinte. L'épreinte, c'est la crotte de loutre, qui, comme chez tous les mustélidés, toute cette famille de carnivores qui ont des glandes à musc, vont marquer leur territoire à travers des dépôts d'épreintes stratégiques sur des lieux qui sont un petit peu des sortes de bornes GPS, quoi. C'est, donc, il y a très souvent sur des confluences, c'est très souvent sur des bouts de bois qui vont faire saillie sur un caillou. Et quand on a le coup, on peut comme ça, assez rapidement, dans une démarche d'inventaire naturaliste, préciser un petit peu le statut d'utilisation d'une rivière par la loutre. Voilà. Et je suis un grand amoureux de la loutre.
Alors vous entendez de la guitare peut-être derrière, c'est notre copain Joe qui prépare le spectacle de ce soir qu'il va y avoir à la Rabouilleuse. C'est pas une loutre qui est en train de jouer de la guitare électrique sur une branche. En fait, elle est même pas fraîche, hein. Je faisais le gland tout à l'heure, mais elle est bonne. Hein.
Elle est bonne, et j'ai envie de dire, c'est presque inquiétant. Ouais. C'est inquiétant parce que une rivière en bonne santé, c'est aussi une rivière qui reste fraîche le plus longtemps dans la saison. Notamment parce que, passé certains seuils de température, vous avez un certain nombre de bactéries, encore à plus forte mesure si vous êtes sur des bassins versants qui collectent du nitrate, du phosphate, de la matière organique, de la bactérie, puis même certaines algues mortelles, comme la cyanobactérie, ouais, qui peuvent se développer. Et donc finalement, se retrouver là, 1er juillet, avec une eau, je ne saurais pas dire, mais elle est vraiment bonne, plus de 20 degrés, c'est pas si bon que ça. Je préférais ressentir la douce fraîcheur du massif central, et faire « Ouh !» Dans les grandes thématiques de l'eau, on a commencé à capter dans les années 70-80 qu'il y avait une grosse problématique autour de l'industrie. Donc l'agence de l'eau a développé tout un tas d'actions sur la gestion des effluents d'industrie qui ont porté une partie de leurs fruits. C'était toute la période où tu trouvais du DDT, tout un tas de mer dans les grands fleuves, le Rhône, etc. Donc on trouve toujours, hein, il y a toujours... il y a eu un effort qui a été porté là-dessus. Ensuite, ça a été la maladie autour de tout ce qui était nitrate, la thématique algues vertes, etc. Et là, on parle de plus en plus de pesticides. Et je pense qu'un des mots-clés, quand on va parler d'eau dans les 10 ans qui viennent, ça va être cyanobactéries.
Qui sont déjà dans les médias tous les ans, tous les étés. Attention quand vous promenez le chien.
Ça va être la grande maladie de nos rivières.
Alors là, c'est pas pour dire, mais en fait, on est au milieu de la Loire, à peu près, sur une île, entre les deux rives. Et dis-moi, avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux me dire donc l'usage que tu feras avec des copains et des copines de ce maillot de bain à Paris?
Mais en fait, on est en train de préparer un grand convoi de l'eau en tracteur, en vélo, qui va partir de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, le 18 août, okay, et qui va nous mener jusqu'à Paris, très vraisemblablement jusqu'au pied de l'Assemblée nationale, avec ce projet un peu fou d'une grande baignade citoyenne dans la Seine, pour venir interpeller nos élus, en espérant qu'il y ait un certain nombre d'élus qui se mouillent avec nous, qui soient le cul dans l'eau avec nous. Parce qu'il se passe un truc sur Paris quand même assez fou, c'est que dans le cadre des JO, il y a eu tout un programme de reconquête de la qualité de l'eau de Paris pour que l'épreuve de triathlon puisse prendre le départ justement au pied de l'Assemblée nationale. Et à la fois c'est très encourageant, ça fait dire que quand il y a des volontés politiques et des moyens mis en œuvre, et quand on remet les priorités dans le bon ordre, on peut obtenir des résultats super sur une rivière. Alors que quand il s'agit de contraindre et de rentrer en interaction avec les intérêts agricoles ou économiques autres, là les arbitrages ils vont dans un autre sens. Donc ça veut dire que techniquement on est capable de garantir un accès à l'eau, et en fait accès à l'eau dans les années qui viennent, ça va juste être l'accès à la survie. Quand il va faire 45 degrés dans nos cités surchauffées, Vous imaginez à quel point une rivière comme ça, en bon état, ça va être précieux. Et ben voilà, ça va être de poser ces questions-là. Et donc on est en train de préparer un grand cheminement comme ça, où tout un chacun va pouvoir vivre une étape ou toute l'aventure. On va faire entre 50 et 60 km de vélo tous les jours. On va être plusieurs centaines. On va être reçus sur des collectifs et sur des collectivités qui se portent à nos côtés dans ces combats pour l'eau. Et bah, chaque étape, ce sera l'occasion de mener des actions pour soutenir les camarades sur leur lutte locale, de faire la fête ensemble, de discuter. Ça va être une espèce de grand barnum comme ça, de Tour de France ou de Four de Trance qui va nous emmener jusqu'à Paris. Avec notamment dans les grandes étapes le fait d'aller frapper à la porte de l'agence de l'eau à Orléans, puisque c'est là qu'une grande partie des décisions sur les bassines se prennent, puisque aujourd'hui encore 50% des financements des méga bassines sont assurés par l'agence de l'eau, qui devrait tout au contraire être le levier de la transition écologique, qui devrait être le levier, c'est un véritable détournement d'argent public, d'argent qui, avec l'agence de l'eau en France, on a un principe qui est que l'eau paye l'eau. On a un autre grand principe qui est pollueur-payeur. Et où finalement, à travers une mainmise de la FNSEA sur le comité de bassin et sur le conseil d'administration de l'agence de l'eau en complicité avec les services de l'État, il y a un véritable détournement de l'objet. Et il y a finalement une grande partie des financements qui devraient être à faire de la réhabilitation de rivières, de la gestion de milieu, de l'intervention sur les fuites d'eau potable, etc., qui virent directement sur le domaine agro-industriel à travers la construction des méga-bassines. Ben, c'est intolérable, et il faut que ça change, évidemment, et le changement, il passe par une nouvelle gouvernance de l'agence de l'eau. Il passe par le fait que, y a des véritables déclarations d'intérêt. Parce que comment on en arrive à ce truc-là? C'est qu'en fait, notamment par le collège des élus locaux, qui représente un tiers des élus du conseil d'administration, ben, y a une mainmise de la FNSEA, parce que quand tu épluches le CV de ces élus locaux qui viennent représenter les collectivités locales, ben, les trois quarts du temps, ils sont eux-mêmes exploitants agricoles, ils sont eux-mêmes irrigants. C'est un nom, ça. Ça s'appelle le conflit d'intérêts. Quand tu participes à une décision d'une collectivité territoriale dont un de tes proches ou ton groupe bénéficie, tu dois t'extraire de ces décisions-là. Et en fait, ce mécanisme-là que je décris, là, l'échelle la plus importante en termes de financement de l'eau, c'est exactement les mêmes choses qui se passent dans quasiment tous les syndicats d'eau potable, pratiquement tous les syndicats de rivières, ce qu'on appelle les compétences GEMAPI. Il y a cette espèce de mélange un peu plus haut, où la FNSEA, par du placement de produits, du placement d'élus dans tous les petits conseils municipaux, arrive comme ça à imposer sa mainmise sur la gestion de l'eau et à détourner tous ces syndicats de leur objet premier.
Julien, merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Et puis on va peut-être profiter de cette baignade dans cette eau si précieuse. Merci à toi et à bientôt.
Et à bientôt. Et je crois savoir que tu as l'habitude de revenir faire des coucous. Ce sera avec plaisir qu'on se retrouvera dans un bateau dans le Marais ou ailleurs pour continuer l'aventure et le récit, ouais, le témoignage.
Et voilà les amis, c'est avec cette baignade dans une eau de Loire déjà trop chaude pour la saison, alors que nous ne sommes qu'au début de l'été, que se termine cette conversation avec Julien Leguet, l'un des porte-parole de Bassine Non Merci, l'un des nombreux collectifs qui composent les indissolubles soulèvements de la Terre, car on ne peut dissoudre ce qui repousse partout. Vous pouvez réécouter cette émission et plein d'autres sur notre site, polemixetlavoixoff.com, avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur votre radio locale préférée, si cette dernière n'est pas interdite avant. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. No Basaran.
Terminé. Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Madoma corté, Madoma yamayon. Madoma corté, Madoma yamayon. Hey.